C'est notre dernière, les amis. Ouais, c'est notre dernière. Et après ça, c'est un gros congé de malade pour revenir avec plein de bonnes énergies. Up and down. Bon, parfait. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ismaël Trépanier, 6h11 minutes. FM. Ouais, il est un petit peu là. Ah, nom de Dieu, que ça fait du bien. Je suis persuadé que vous êtes impatient d'entendre Claude Reichmann. C'est le cas aussi. On va aller. En bon québécois, les Français, ça, je suis sûr que vous faites comme quoi?
Quoi? Qu'est-ce qu'il dit encore?
On va aller le chercher. Alors, on va aller le chercher. Par cette adresse-là. Clique, et voilà. C'est fait. Claude Reichmann, bien sûr, de claudereichmann.tv. Vous pouvez aller l'observer, enfin, le regarder, lire et écouter ce qu'il a à raconter sur sa TV. Monsieur Reichmann, bonjour, comment ça va?
Bonjour, Monsieur Trépanier. Je vais bien, et vous-même?
Oui, ben ça va, moi, ça va tellement bien là aujourd'hui, parce que c'est la dernière journée de l'émission Wake Up, dans le sens que c'est les vacances!
Oh, oh! Et voilà, vous allez profiter de tout cela pour vous reposer. Vous allez peut-être prendre un peu le soleil, non?
oui, c'est ça, je vois l'humour, là. Je vous vois...
Avec tous les bénéfices que la finance internationale vous a fait faire.
Oui, c'est ça, exactement. On me finance énormément, vous savez. Alors, non, mais c'est surtout qu'ici, en ce moment, ça doit être sûrement l'environnement ou les changements climatiques, mais on est rendu à plus de, 25 plus 25 plus 15 plus 25. Alors, on a presque un mètre il y a presque un mètre de neige de tomber.
Bon?
Oui.
Oh, c'est normal chez vous au Canada, c'est il y a quand même de la neige en hiver.
Ouais, c'est normal pour ceux qui aiment ça.
Ah oui.
Pour moi c'est anormal, je déteste ça, c'est fou. Je sais pas pourquoi j'ai pas ça dans le sang. Probablement oui. Que je l'ai toujours dit à ma mère que je me sentais beaucoup plus noir alors que blanc.
Et votre mère n'a pas été vexée?
Oui, un peu. Oui, je l'avoue. Oui, juste un peu. Mais dites-vous bien, je préfère beaucoup plus la chaleur. Je sais pas pourquoi. Je suis quelqu'un qui a extrêmement froid facilement, mais la chaleur, là, il peut faire par exemple. Est-ce que vous parlez en Fahrenheit, Monsieur Reichmann, ou en Celsius?
En Celsius.
Bon, alors plutôt, oui. Alors 38, 43, c'est des températures qui se sont déjà présentées. Qui ont déjà eu un moment ici au Québec. Et bon, tout le monde que je connais alentour de moi, oh mon Dieu, c'est intolérable, ça ne se peut pas, c'est difficile. Bon, mais moi j'étais comme un poisson dans l'eau, façon de parler, bien sûr. Alors disons que j'appréciais cette chaleur torride, Monsieur Reichmann.
Vous savez, les chaleurs les plus fortes que l'on connaisse en Europe, 42, 43, c'est en général lorsqu'il y a ce qu'on appelle un coup de sirocco. C'est un vent qui vient du sud et du désert en général.
Oui, ok.
Et on rencontre ça en Afrique du Nord aussi, surtout en Afrique du Nord d'ailleurs. Le sirocco étant un vent du Sahara qui souffle dans certaines périodes. Et dans ces cas-là, moi je me souviens, j'ai connu ça, j'étais en Afrique du Nord à un moment, et il fallait, en se plongeant dans la piscine, on n'arrivait pas à respirer tellement il faisait chaud.
Ah oui?
Il n'y avait que dans les chambres climatisées qu'on arrivait à avoir un petit peu d'air. Enfin, c'est assez impressionnant, hein, le sirocco.
Ouais, c'est...
Enfin, pour vous qui supportez les 43 degrés, vous pouvez d'ores et déjà, muni d'un simple casque colonial, entreprendre une expédition en Afrique du Nord.
Oui, exactement. C'est ce que je vais faire. Je vais me faire mes économies avec, comme vous me disiez au début, là, avec voilà. Les investissements qui ont été.
Vous avez placé chez Madoff, je suppose, comme tout le monde.
Non. Mais non, oui, mais oui, j'ai placé 25 milliards. Monsieur Merde, c'est moi qui m'ai su faire flouer de la moitié.
Enfin, vous et moi, nous sommes tranquilles. Donc, si j'ai bien compris, on n'a rien perdu.
Mais oui. C'est grave ce qui s'est produit, hein.
Je comprends que c'est grave. Mais vous savez, c'est un système qui est assez classique. J'ai publié sur mon site il y a quelques jours un article du président d'une caisse de retraite par répartition qui disait que finalement c'est exactement le même système, parce que ce qu'a utilisé Monsieur Madoff, c'est la fameuse pyramide de Ponzi,
oui.
Vous savez.
Oui. Oui.
Et donc cette pyramide est fondée sur, tout le monde le sait, sur le fait qu'on paye des intérêts plus importants que la moyenne grâce aux nouveaux apports des souscripteurs. Eh bien, les caisses de retraite, écrivait dans un article qui a déjà quelques années ce président de caisse de retraite, fonctionnent exactement sur le même système, et c'est une escroquerie. C'est-à-dire qu'on paye les retraités avec l'argent de ceux qui travaillent. On le répartit, si vous voulez. Et à partir de là, il y a deux conséquences majeures. Il faut respecter surtout deux principes. Le premier, c'est qu'il faut que ceux qui payent soient pratiquement toujours à peu près dans le même rapport avec ceux qui reçoivent. Je vais vous prendre un exemple français. Actuellement, vous avez moins de 2 cotisants pour un retraité. Or, ceux qui sont actuellement à la retraite, quand ils payaient pour ceux qui étaient à l'époque à la retraite, étaient au moins 5. Donc, vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grandes études mathématiques pour comprendre
que
ça vous coûte moins cher quand vous payez 5 pour une personne qu'en étant 1,5. Et donc, voilà, le système est le même dans la mesure où on a continué à payer généreusement les gens qui arrivaient à la retraite sans penser qu'au moment où ceux qui payaient à cette époque-là seraient eux-mêmes à la retraite, il n'y aurait plus assez de monde pour les payer.
Ah, mon Dieu.
Vous voyez, donc c'est ça la pyramide de Ponzi des retraites par répartition. Alors ça joue évidemment moins dans les retraites par capitalisation, puisque ça ne joue même pas du tout, puisque c'est le capital accumulé qui est déterminant pour la hauteur de la retraite. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais insister.
Oui.
On dit actuellement que les retraites par capitalisation ont été condamnées par la crise actuelle. Ce qui a été condamné, ça n'est pas la capitalisation, ça a été une certaine forme de capitalisation abusive, celle qui a consisté à essayer d'avoir des rendements tout à fait anormaux, puisque il n'est pas normal d'avoir des rendements de 15% quand l'économie progresse au maximum de 3% par an.
Ouais.
Et donc les caisses de retraite finalement ont fait preuve, et les autres investisseurs ont fait preuve de cupidité.
Terrible.
Alors que s'ils avaient placé sagement, sans avoir des rapports extraordinaires, mais avec beaucoup plus de sûreté, parce que ce sont des obligations, ou obligations d'État par exemple, eh bien leurs souscripteurs ne seraient pas aujourd'hui en situation d'avoir des retraites réduites en peau de chagrin. Et ça pose une fois de plus le problème de la lucidité, si vous voulez. Je pense qu'actuellement le drame que nous vivons, parce que c'est un véritable drame, parce qu'il se traduit par du
50 milliards. C'est plus gros que Enron encore.
Oui, et puis c'est surtout les conséquences, d'une façon générale, en termes de chômage, en termes de misère, même pour certains. Eh bien, tout cela, c'est dû au fond au fait que personne n'a les idées claires dans ce genre d'affaires-là. Parce que nous, en France, par exemple, on nous serine depuis je ne sais combien de temps, enfin depuis que la retraite par répartition a été créée, et surtout depuis que le nombre des cotisants diminue de façon très importante et que le nombre des retraités augmente lui aussi de façon très importante, on nous serine que la retraite par répartition, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux au monde, etc. Or, nous constatons aujourd'hui que les retraites se réduisent de plus en plus, que les cotisations augmentent et vont augmenter encore plus, et que finalement les retraites ne seront à l'arrivée pas payées, parce que vous ne pouvez pas avoir une retraite quand vous avez une seule personne qui cotise pour vous. Et or, on y va tout droit, et donc c'est un système qui est fou. Et en même temps, la capitalisation, nous avons fait, nous, avec l'association que je préside, des calculs, on a publié plusieurs rapports sur ce sujet, qui démontrent que même en faisant des placements qu'on peut qualifier de placements de père de famille, c'est-à-dire des obligations qui rapportent entre 3 et 5% par an, on arrive sur une vie de travail à se constituer une retraite qui est au moins 4 à 5 fois plus importante que celle que peut verser la répartition. Et en plus, vous êtes possesseur du capital. Donc, il n'y a même pas de discussion possible sur les avantages que présente l'une ou l'autre de ces, l'un ou l'autre de ces types de retraites. Mais ce à quoi nous sommes affrontés, c'est à un problème idéologique. C'est le collectivisme qui exige que l'individu ne puisse pas se constituer lui-même sa retraite. Il faut que ce soit la collectivité. Je me rappelle d'une discussion qu'il y a eu au moment où il était question d'ajouter à certains types de retraites en France à ce qui existe encore, une forme de capitalisation. Et je me rappelle encore de cette discussion qu'il y a eu au micro de Madame Christine Ockrent, qui est l'actuelle Madame Kouchner, et qui dirigeait une émission qui s'appelait Trans-Europe Express le dimanche soir sur une chaîne de télévision. Eh bien, il y avait là Monsieur Chérec, qui est le secrétaire général du syndicat CFDT, qui disait qu'il était d'accord à condition que le système soit collectif. C'est-à-dire que l'idée simple que vous puissiez vous-même être propriétaire de votre retraite, eh bien, ça lui paraissait intolérable. Et les gens présentent ce personnage comme quelqu'un de moderne, d'évolutif, qui accepte la discussion, mais alors que c'est un parfait marxiste. Donc, voilà à peu près les conditions dans lesquelles on crée tout ce qu'il faut pour que les Français à la retraite soient ruinés bientôt. Alors, j'espère que vous, Canadiens, vous n'avez pas ce genre de soucis. Enfin, pas vous, monsieur Trépanier, parce que vous êtes un grand investisseur, évidemment, sur les places financières.
Oui, c'est ça. Mais
il est évident que vos compatriotes qui sont moins intelligents que vous risquent d'avoir à souffrir.
Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que je suis si brillant, et pourtant, je me suis jamais décrit comme ça en ondes. Mais, et d'ailleurs, ça m'attire quelques problèmes juridiques par moment, Monsieur Reichmann. Oui. Si vous savez, ça, faire de l'animation radio, ça peut comporter certains risques. Je ne croyais pas que ça pouvait.
Toute action publique comporte des risques parce qu'on est en vue.
Oui.
On est entendu, et les mots que l'on emploie sont des mots en général qui ont une portée plus important, puisqu'ils sont diffusés au sens propre du terme, largement, alors que quand vous parlez au bistrot du coin, il y a juste les deux ou trois poivrons de service qui vous écoutent.
C'est en plein ça. Puis je peux juste vous dire une chance que j'ai un bon assureur. C'est ça
que... Ok, bien.
Oui, exactement.
Pour vous assurer contre les risques de diffamation, c'est ça?
Oui, je n'ai pas le choix, sinon...
on est obligé.
Sinon, c'est mes enfants, ma femme, ma maison et tout ce que j'ai qui reste, alors...
Bien sûr.
Bon, parce que Dieu sait que sûrement que vous avez déjà entendu un peu le style que je peux avoir déjanté et peut-être irrévérencieux pour certaines personnes.
Ah, ça, ce sont les risques du métier.
Mais c'est exactement. Alors, faut faire avec. Mais il y a une chose qui est sûre. Juste pour en venir avec, parce que c'est une supercherie incroyable, 50 milliards de dollars. Et je ne sais pas si vous avez un peu regardé le dossier, comment il procédait. Dans le fond, il vivait sur... Il y a 50% des gens, des premières personnes qui ont commencé à investir, que eux, c'est définitif et clair, ils n'ont plus aucun sou, OK? C'est ce qu'il nous disait dans l'article. Ils n'ont plus rien, là. Et l'autre 50%, ceux qui sont arrivés sur le tard, ceux qui ont décidé, qui ont entendu parler pas longtemps après que c'était intéressant d'investir à cet endroit, eux non plus vont avoir de la difficulté à se faire rembourser quelque chose. Et d'ailleurs, on sait tous, pourtant, M. Reichmann, juste le système pyramidal. Il me semble que faut pas être trop génie pour comprendre que ça fonctionne pas. C'est pas quelque chose de très intelligent comme concept et qui s'effondre facilement comme un château de cartes, là.
Oui, ça s'effondre lorsque la confiance diminue et lorsque les gens qui adhèrent deviennent de moins en moins nombreux, si bien que on ne peut plus payer les intérêts promis à ceux qui sont des souscripteurs antérieure, et par conséquent, il y a un moment où l'organisme est obligé de dire qu'il ne peut plus payer. Mais il y a quand même un certain nombre de points qui ne sont pas très clairs dans cette affaire, non pas sur le principe, on sait très bien comment ça a fonctionné, mais on ne sait pas du tout ce que M. Madoff a fait de cet argent. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à savoir, à travers ce que j'ai pu lire ou entendre, comment il avait géré cette affaire. Est-ce qu'il faisait ou ne faisait pas des placements? Est-ce qu'il faisait, par exemple, est-ce qu'il pratiquait la pyramide pure et simple, c'est-à-dire qu'il ne plaçait rien du tout et qu'il distribuait uniquement des dividendes ou des intérêts en puisant sur les nouvelles rentrées? Mais c'est quand même étonnant, parce que les sommes en question étaient tellement importantes qu'on ne peut pas les garder dans un panier qu'on porte au bout de son bras ou bien sous un matelas. Donc il a bien fait quelque chose à un moment ou à un autre de ces sommes. Elles ont forcément été placées ici ou là. Et je pense que l'enquête va être très intéressante parce que elle va nous révéler comment ce système non seulement a fonctionné, ça on s'en doute évidemment, mais surtout on peut se demander s'il n'y a pas ici ou là des sommes cachées, parce qu'il n'est quand même pas normal que tout cet argent ait disparu purement et simplement. Sauf s'il y a eu des retraits massifs dans les tout derniers jours, auquel cas on peut se demander en effet si l'argent n'est pas passé entièrement au remboursement des souscripteurs qui réclamaient, enfin les premiers qui réclamaient, mais il ne serait pas forcément extravagant de penser qu'il y a ici et là des sommes cachées dans des placements dissimulés eux-mêmes. Et peut-être que certains, enfin, vous imaginez bien qu'ils vont chercher, que la justice va se pencher avec beaucoup de soin sur tout cela, mais les souscripteurs ont un sacré intérêt à savoir s'il n'y a pas ici et là des sommes qui ont été déplacées et qui seraient récupérables.
À ce moment-ci, Monsieur Reichmann, il faut se pencher absolument sur le système américain qui est peut-être un peu trop, qui laisse trop de lassitude à ce genre d'entreprise. Si je ne me trompe, il me semble que le système américain au niveau des lois est beaucoup plus permissif, non pas pour qu'il y ait des systèmes pyramidales, mais il y a moins d'enquêtes. Je sais pas, ça fait plusieurs scandales même assez costauds.
Les types, oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les fonds du type de celui que gérait M. Madoff qui ne sont pas contrôlés par les autorités financières.
Non, exact.
En France, par exemple, ils le sont. Mais, vous savez, un escroc habile est toujours capable de déjouer les contrôles. Et quand vous savez qui sont les contrôleurs, là, hier soir, je voyais à la télévision française, sur une chaîne, le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers. Il s'appelle M. Gérard Ramex. Et je riais un peu, alors qu'il n'y a quand même pas de quoi rire tellement, parce qu'on lui demandait si les Français, les épargnants français étaient touchés par la faillite du fonds Madoff. Et il disait que l'épargnant de base, le petit épargnant, n'était pas touché, mais enfin, il n'était pas d'une précision extrême. Il avait fait l'AMF avait fait une enquête auprès des 250 sociétés qui étaient éventuellement concernées, donc le quart d'entre elles semblait indiquer qu'il n'y avait pas de petits épargnants touchés. Encore que personne ne le sache vraiment, tout simplement parce que les fonds investissent les uns dans les autres. Vous avez un fonds votre banque, par exemple, a un fonds. Bon, elle vous dit, voilà, souscrivez à ce bon, on vous donnera tel et tel revenu de votre placement. Mais ce fonds lui-même souscrit à un autre fonds, qui souscrit à un fonds de fonds, et à l'arrivée, la personne qui vous a fait souscrire originellement ce fonds ne sait même pas où l'argent est placé. Donc, M. Ramex expliquait, avec les quelques moyens qu'il avait de faire comprendre aux gens, que finalement, il lui semblait que les épargnants de base n'étaient pas touchés. Mais ce qui me paraissait le plus drôle, c'est que ce monsieur, qui est un énarque, était il n'y a pas longtemps le président, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on passe, on passe d'une catastrophe financière à une autre. Alors on trouve toujours les mêmes.
Non, c'est pas vrai.
Ah si, c'est authentique comme dit l'autre.
Oui.
Ça m'a rappelé, figurez-vous, une histoire que j'ai vécue il y a bien des années dans un petit village de montagne. On faisait un petit peu d'excursion et on s'arrête dans ce petit village. On rentre dans une épicerie pour acheter un peu de nourriture et de boisson. Et l'épicière n'avait pas tout ce que nous souhaitions, donc on est sorti, puis il y avait une autre épicerie tout à côté, on est entré, et qui avons-nous vu surgir? La même épicière, elle tenait les deux épiceries. Voilà. Monsieur Ramex, je le vois sortir comme un diable de sa boîte quand il y a un problème à la sécurité sociale, et c'est le même quand il y a un problème avec le fonds Madoff.
Il fait
pas ça en même temps, mais vous avouerez que c'est un peu cocasse quand même de se dire que les pseudo-experts que nous avons au service de nos intérêts,
vous l'avez dit,
sont quand même des gens dont on peut quand même douter de la compétence.
Bah, tout à fait. Pseudo et beaucoup, beaucoup.
Pseudo-expert, oui.
Oui, on pourrait en rajouter encore plus, même. On me dit, oui. Sur Skype, les gens réagissent. Il y a Alter Ego Cap qui mentionne ceci, suite à ce que vous venez de dire, M. Reichmann, que par rapport à Madoff, c'est un escroc. Je refuse de croire que les grands organismes financiers qui ont plongé dans ce système n'étaient pas au courant de l'arnaque. C'est l'appât du gain qui leur a fermé les yeux, tout simplement. C'est ce que l'auditeur pense, M. Reichmann.
Il a probablement raison, mais en partie seulement, parce qu'il y a un autre phénomène dont il ne tient pas compte.
Ouais, je sais pas si vous êtes éloigné de votre micro, mais...
Je suis plus près, là, maintenant, ça va mieux?
Oui, continuez.
Non, et là, est-ce que vous m'entendez, là?
Encore trop loin, je sais pas ce que vous avez fait en l'espace de 5 secondes.
Ben, je n'ai pas fait grand-chose.
Ah, ben là, voilà, ça a fonctionné, là.
C'est revenu, bon.
Ouais.
Alors, donc, ce que notre auditeur ne prend pas en compte suffisamment, à mon avis, c'est le fait qu'il y a aussi une grande ignorance de la part des principaux dirigeants d'organismes financiers, notamment des banques, sur les détails des montages qui sont faits. Il faut savoir que tous ces montages, je ne parle pas d'une escroquerie en particulier, mais
non.
Tous ces montages financiers, en particulier tous les produits dérivés, sont le fruit d'équations mathématiques. Ce sont des ingénieurs, des mathématiciens, des polytechniciens qui ont monté tout ça sur la base de calculs. Et vous pouvez être certain que la majorité des directeurs de banque ne sait absolument pas comment tout cela fonctionne. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point, alors là, je rejoins notre auditeur, il est quand même extraordinaire de penser que tous ces grands dirigeants de banque ne se sont pas aperçus du fait que les rapports de ces fonds de placement étaient quand même anormaux. Non pas qu'ils étaient tellement élevés, mais c'est surtout le fait qu'ils étaient constants. Or, quand vous avez, dans la vie de l'économie, dans la vie de la finance, il y a des hauts et des bas par définition. Et là, les placements Madoff, il n'y avait pas de bas. C'était toujours au plus haut. Or, tout le monde sait bien que ça n'est pas comme ça que ça marche dans un organisme financier normalement géré. Donc, effectivement, il est probable que dans la mesure où ça rapportait, un certain nombre de personnes ont fermé les yeux. Et voilà, le résultat, c'est qu'il ne leur reste plus que leurs yeux pour pleurer.
Et là, justement, une question qui vous a été posée de Laurent. Laurent Lagneau, qu'a fait Madoff de tout cet argent? Selon vous, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il le dépenser dans les... Le mettre... Ah, par exemple, le placer dans des endroits, dans les paradis fiscaux? Ce serait...
C'est la question que je posais tout à l'heure. Parce que je n'arrive pas à croire que 50 milliards puissent disparaître comme cela sans qu'il y ait ici ou là des placements. Actuellement, sauf la seule hypothèse possible serait que l'ampleur des sommes qu'il a reçues était telle qu'il a été obligé de rembourser des sommes très importantes au fond qui avait besoin de cela pour survivre lorsque la crise financière a éclaté. Mais franchement, je serais surpris que tout l'argent soit passé dans des remboursements.
Exact.
Il est vraisemblable qu'il avait un fonds de trésorerie fort important, mais que on va, je pense, à un moment ou à un autre, trouver des placements financiers, soit dans des paradis fiscaux, soit dans des fonds cachés. Mais il n'est pas logique que tout cet argent ait disparu.
Et effectivement, c'est pas logique, sauf que en ce moment, il y a plusieurs personnes, voire des milliers de personnes qui ont investi là. Et c'est un beau bordel, Monsieur Reichmann, toute cette histoire entourant.
Un formidable bordel, comme disait Eugène Ionesco, le grand auteur dramatique, et qui avait fait une pièce qui s'appelait comme ça, ce formidable bordel. Effectivement, c'est bien ce que nous vivons en ce moment.
Il y a justement la compagnie INSEE qui dit que la récession, ben c'est pour 2009, Monsieur Reichmann. Je pense pas que ce soit.
Elle est déjà installée. L'INSEE, c'est pas l'INSEE. Vous le prononcez à l'américaine.
Oui.
Mais en fait,
c'est mon compte
national. C'est l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE. INSEE.
Exactement.
Donc, alors l'INSEE, c'est un organisme public français qui est chargé précisément d'établir les comptes de la nation et de faire des prévisions. Et ils ont aujourd'hui indiqué que nous allions avoir en France plusieurs trimestres consécutifs de baisse. On en a déjà eu deux jusqu'à maintenant. On en a eu un, puis le celui d'avant a été très légèrement positif. Enfin, tout ça, vous savez, c'est au dixième de point près, donc c'est un peu difficile.
Mais je me posais.
Si c'est positif ou négatif.
Je me posais une question, M. Reichmann. Est-ce que c'est, j'imagine, c'est sur le plan mondial qu'on doit, que tous les pays doivent être au même diapason, c'est-à-dire s'ils ont plus de mon Dieu, deux trimestres, ben, enfin, s'ils ont deux, comment dire, bilans négatifs, on peut dire qu'il y a une récession. Est-ce que c'est comme ça un peu partout sur...
Oui, oui,
j'imagine que c'est pour tout le monde, c'est la même chose.
C'est une définition internationale.
C'est une définition, ouais, exactement.
C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux trimestres consécutifs où le produit national brut baisse, on dit qu'il y a une récession. Et actuellement, ben, nous sommes évidemment dans une récession. C'était d'ailleurs assez amusant, je ne me souviens plus qui disait cela. Oui, je crois que c'était Reagan qui disait cela, pour essayer de montrer la différence qu'il y a entre une récession et une dépression. Alors, une dépression, c'est plus grave qu'une récession. Alors, une récession, c'est quand mon voisin perd son job, et une dépression, c'est quand c'est moi qui le perds.
Oh mon Dieu, oui, effectivement. Ouais, il y a des
gens qui définition sont classique maintenant.
Très ouais,
là
ouais.
Maintenant, on va évidemment être plus près de la dépression que de la récession parce que.
Bah, je vous donne une.
De gens.
On trouve mille et une. Exactement, on trouve plusieurs façons du côté des États-Unis. Par exemple, j'ai General Motors et Chrysler qui, bien sûr, en catimini, c'est pas encore mentionné, mais essaierait de faire une alliance, en dire même, je dis pas une alliance, mais une fusion, histoire oui. de maintenir les emplois. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Peut-être que même, je dirais que ça donnerait quelque chose et ferait peut-être en sorte que il n'y a pas un crash enfin qui en vienne à faire faillite General Motors. Vous en pensez quoi?
Ben, je pense effectivement, on va vers ce qu'on appelle en termes économiques une consolidation, c'est-à-dire en fait des fusions d'entreprises. Mais ça ne sauvera pas évidemment.
Non.
Tous les emplois, puisque par définition, une fusion, c'est destiné à être plus efficace. Il va y avoir très certainement dans l'industrie automobile une recomposition générale. Il y a des firmes qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont s'allier les unes avec les autres et qui vont évidemment comprimer le personnel pour être plus rentable, pour être rentable tout simplement. Là, on est face à quelque chose qui va ressembler à un énorme chantier qui va se dérouler sur des années. Et qui va probablement se faire dans le sang et dans les larmes, parce que l'industrie automobile a quand même vécu des années très fastes. Elle est encore un très grand employeur aux États-Unis, directement ou indirectement. Cela concerne 5 millions d'emplois. En France, un peu moins, bien sûr, autour d'un million d'emplois à peu près, je crois. Mais ce qui est certain, c'est que l'industrie automobile ne peut pas rester dans l'état où elle est actuellement. Figurez-vous qu'il y a des entreprises, c'est-à-dire soit des industriels de l'automobile eux-mêmes, soit des sous-traitants qui ont fermé, par exemple, maintenant pour un mois. Et on ne sait absolument pas s'ils rouvriront. C'est une situation absolument nouvelle. On n'a jamais vu dans cette industrie, ni d'ailleurs dans la plupart des autres, de phénomènes identiques. Et il y a une véritable panique qui règne actuellement partout. Et cette panique augmente encore la crise parce que les gens s'abstiennent de toute dépense. On me dit en particulier à Paris, je n'ai pas pu vérifier ailleurs, que même les pharmaciens vendent moins de médicaments, les médecins reçoivent moins de patients. Enfin, bref, on est dans une situation où celui qui est malade décide ben, je ne vais pas être malade, je ne vais pas me soigner, je ne vais pas acheter de médicaments. Bon, ce qui veut dire probablement qu'on consultait peut-être un peu trop et qu'on achetait peut-être un peu trop de médicaments avant. Enfin, on est passé d'un extrême à l'autre et actuellement, cela signifie qu'il y a une véritable dépression, alors cette fois-ci de caractère psychologique, chez les gens, et c'est normal. Tous les jours amènent des nouvelles de plus en plus catastrophiques.
On se rend compte, monsieur Reichmann, que on est dans une société de surconsommation. Et en ce moment, ça nous explose en pleine gueule. Hein?
Exactement.
L'élastique est tendu à son maximum. Et on fait comme merde. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est nous qui avons fait en sorte que en 1920. Pour relancer l'économie, on a fait imprimer beaucoup de papier et c'est ce qui se produit. Les gens vivent à crédit, voilà. Ils ne sont plus capables de payer parce qu'ils ont peut-être 100 000, je sais pas combien par année, mais un salaire décent, mais ils dépensent au-delà de ce qu'ils gagnent. Et c'est ce qui nous amène en ce moment dans une récession. C'est pas simplement, et on peut le voir juste au niveau des concessionnaires automobiles. Vous promenez dans un concessionnaire, vous allez vous promener en ville, vous arrêtez devant un concessionnaire automobile. Il y a combien de véhicules qui sont pas encore achetés? Il y en a plusieurs qui ne sont pas vendus.
Il y en a 1 million. Ouais. En France, il y a 1 million de véhicules qui n'ont pas encore trouvé de preneur.
Ben, la question que je vais soulever qui est très simpliste. Il y a 1 million de véhicules qui ne trouveront jamais preneur. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il n'y a personne pour l'acheter.
C'est exactement ça. Alors, peut-être qu'ils trouveront un jour preneur, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et ce qui s'est passé, c'est pour ça que ça fait des années d'ailleurs que j'avertis que des choses pareilles allaient se produire. On a oublié une chose, c'est que si l'on veut vendre quelque chose, il faut qu'il y ait des clients pour l'acheter. Or, dans pays européen en particulier, et ça c'était vrai d'ailleurs en partie aux États-Unis, mais aux États-Unis le crédit, justement, c'est la raison pour laquelle il y a eu tellement de crédit qui a été déversé sur le pays. Mais en France et en Europe, au contraire, on a tellement prélevé sur les salaires des gens pour leur assurer une couverture sociale qu'on a oublié de leur laisser de quoi vivre. Et donc actuellement, vous avez des gens qui ne peuvent absolument plus boucler leur fin de mois. À plus forte raison, ils ne peuvent pas acheter d'automobile.
Exactement.
Et donc, tout ceci, c'est une affaire de longue haleine. Vous savez, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. On a multiplié les fautes, on a multiplié les erreurs, on a multiplié la surdité face aux avertissements. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a plus beaucoup de solutions. Si, il y en aurait une qui consisterait, c'est celle que je recommande depuis longtemps aussi, en tout cas depuis le début de cette crise, elle consisterait à diminuer les impôts et les charges de façon à ce que les particuliers aient un peu plus de marge de manœuvre et puissent boucler leur fin de mois d'abord avant même de songer à consommer davantage, et que les entreprises puissent, avec des charges moindres, investir et embaucher. Mais aucun des États actuellement n'a le courage, sauf la Grande-Bretagne qui a quand même baissé la TVA, mais les autres États européens sont littéralement paralysés. L'exemple le plus frappant est celui de la France. On n'a pas réussi à baisser les dépenses publiques d'un centime d'euro. Donc on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire que les gens n'auront pas plus d'argent pour consommer, pour vivre tout simplement, et les entreprises continueront d'être étranglées. Donc tant qu'on ne fera pas ces réformes, et tant que ces réformes ne seront pas menées avec patience et avec détermination, nos pays n'ont pas la moindre chance de se redresser. Et regardez ce qui se passe en Allemagne, c'est tout à fait frappant, je crois vous en avoir parlé la dernière fois, mais c'est vraiment extraordinaire. L'Allemagne est un extraordinaire exportateur. Ils exportaient en tout cas jusqu'à l'année dernière pour environ 200 milliards d'euros. C'est une somme considérable. La France, dans le même temps, avait une quarantaine de milliards d'euros de déficit commercial. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation radicalement différente. Mais les Allemands avaient oublié une chose, c'est que lorsque les exportations faiblissent, c'est-à-dire que lorsque les autres pays ont eux-mêmes une difficulté, on vend moins à l'étranger et il faut pouvoir compter sur son marché intérieur. Or, le marché intérieur allemand a été littéralement étranglé par l'augmentation de 3 points de la TVA en janvier 2007. Et du coup, la consommation, évidemment, affaiblit puisque vous augmentiez les prix pratiquement de 18 à 20%.
Ouais.
Donc, les Allemands qui ne sont pas de très très gros consommateurs par tradition, par nature ou par civilisation, ont évidemment consommé encore moins. Et aujourd'hui, la consommation serait un relais très important dans l'activité économique, puisque les Allemands, comme je vous le disais, vendent moins à l'étranger, puisque l'étranger achète moins. Mais voilà, ils se sont fermés cette issue, avec beaucoup de stupidité d'ailleurs, parce que c'est d'une stupidité, c'est pas que l'Allemand soit plus stupide que le Français,
non,
mais c'est
non,
simplement
non,
que les dirigeants allemands n'ont pas étudié suffisamment les choses, et en particulier ils ont cru comme beaucoup que tout ce qui existait continuerait. Donc nous continuerons à vendre à l'étranger, donc nous pouvons redresser nos finances publiques en augmentant la TVA. Seulement ils ont oublié une chose, c'est que tout ne continue pas toujours comme avant, et les arbres, comme on dit, ne manquent au ciel, et à un moment il arrive que les choses actuelles, enfin celles que nous vivons, se produisent, c'est-à-dire qu'il y a un véritable pépin, un gros pépin même, Et du coup, on aurait bien besoin actuellement du marché intérieur qui ne remplit plus son usage. Quant à la France, alors elle cumulait les inconvénients puisqu'elle ne vendait pas à l'étranger, elle vendait très mal. Enfin, elle vend bien sûr, mais elle a un gros déficit commercial.
Ben, oui, exactement.
Et dans le même temps, elle a écrasé aussi son marché intérieur avec les impôts et les charges.
Voilà. Ouais. C'est exactement la même chose qui se produit ici du côté canadien, mais sur le plan provincial au Québec. On nous impose, on écrase les entreprises. Je sais pas pourquoi on dirait qu'on pousse à ce que tout le monde soit fonctionnaire, façon de parler, et que ce soit seulement les gros magnats de la finance qui existent. Alors les petites PME, on fait tout pour justement les ensevelir de papier, d'avoir le document rose, le bleu, le jaune, et en plus, ben c'est ça, on fait en sorte de ne pas baisser leurs impôts, les taxes ne cessent d'augmenter. Et après ça, on se demande pourquoi justement il n'y a pas plus de gens qui ont le goût, qui ont le goût de l'entrepreneurship, qui ont le goût de se lancer en affaires. Et je crois qu'on fait exprès. On le fait exprès, M. Reichmann. On le fait exprès.
Ben écoutez, je crains que ce ne soit, hélas, votre côté français, la tradition française, dont vous souffriez actuellement.
Oui.
Parce que bon, la tradition anglo-saxonne n'est pas la même. Il est arrivé que les anglo-saxons fassent des erreurs,
c'est
aussi,
ça.
qu'ils accablent eux aussi d'impôts et de charges. C'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Grande-Bretagne, ouais. C'est arrivé ailleurs. Mais en général, il y a un moment ou un autre où une vision différente s'impose et on baisse les impôts et les charges. Alors que chez les peuples de tradition française, on a vraiment le sentiment que le peuple ne vit bien que quand l'État est accablant. Alors que c'est exactement le contraire. Alors, ce qui se passe, il y a un phénomène très intéressant actuellement en France, qui est la création d'un nouveau système de petites entreprises. Alors, vous pourriez me dire, ah ben c'est bien, enfin ils ont compris. Ben, en réalité, ils ont compris au moment où c'est déjà trop tard. Alors, quel est le principe? C'est-à-dire que vous pouvez créer votre entreprise avec un simple clic internet. Bon, vous déclarez que vous faites une entreprise et vous ne payez d'impôts et de charges qu'à partir du moment où vous gagnez de l'argent. Donc, mais évidemment, c'est limité parce que on peut pas aller au-delà d'un certain chiffre d'affaires qui est relativement réduit, qui est de l'ordre de quelque chose comme une trentaine de milliers d'euros à peu près, un peu plus ou un peu moins selon le type d'activité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 20 ou 25 ans qu'on aurait dû le faire, au moment où il y avait encore la possibilité de redonner un peu d'activité au pays. Parce que, imaginez quand même, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, jusqu'à cette novation, mais qui ne concerne pas toutes les entreprises, vous créez une entreprise, immédiatement on vous demande de payer des charges alors que vous n'avez pas gagné le premier centime d'euro. Et donc, vous n'êtes pas capable de le faire, à moins que vous ayez un capital important, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas vous abuser à créer une entreprise de cette manière, vous faites les choses différemment. Donc, et là, il a fallu 25 ans ou 30 ans pour que les princes qui nous gouvernent se disent, tiens, mais au fond, ce serait quand même logique de ne pas payer d'impôts tant qu'on n'a pas gagné d'argent. Bon, mais malheureusement, au jour où ils font cela, ça va commencer le 1er janvier, nous sommes dans une situation où on se demande bien qui va pouvoir se lancer même avec ce système, puisque l'activité est au point mort. Donc, si vous voulez, voilà des gens qui, au fond, arrivent toujours en retard, ils ratent tous les trains. Et quand ils ont une bonne idée, eh bien, c'est la bonne idée qu'il aurait fallu y avoir il y a 30 ans. Alors, ça vous donne une idée, justement, du caractère particulièrement avisé de ceux qui nous gouvernent.
Je peux vous dire que, avec le plan de relance, là, qu'on promet de votre côté, de 100 milliards, je crois, c'est ça, Conseil des ministres, là, qui vient d'avoir lieu, là,
100. En France, non, 200 milliards, c'est le chiffre qu'a avancé la Commission européenne.
Ouais, moi j'avais 100. Ah, c'est 200 milliards. Moi j'avais 100 milliards. Ah. Oh.
Non, vous savez, c'est une recommandation. Actuellement, les milliards jonglent littéralement partout. Dès que vous sortez sur votre balcon, vous prenez un milliard sur la tête. Il faut faire très attention.
Et donc, oui, merci de me prévenir.
Partout, il y a des milliards qui tombent. Non, en réalité, c'est complètement fou. Hier, je lisais une interview Monde qui est apparu hier, Monsieur Augustin de Romanet, qui est le président de la Caisse des dépôts et des consignations et qui est un des principaux bailleurs de fonds du logement social et de certaines entreprises, il dit, nous avons versé 40 milliards dans l'économie. Mais on n'arrive pas à savoir d'où viennent ces milliards. Et finalement, en regardant d'un peu plus près, il me semble que c'est des milliards qu'ils dépensent habituellement. C'est-à-dire qu'ils ont, ils financent le logement social à concurrence d'un certain nombre de milliards. Ben, ils ont continué, tout simplement. Mais tout d'un coup, on nous intoxique avec le nombre de milliards qu'on a mis dans l'économie pour essayer de capter la confiance des gens. Ouais. Mais en réalité, ces milliards n'ont même pas bougé, le plus souvent. Ouais, la France, par exemple, fait un plan de garantie. Alors, bien sûr, c'était des garanties, pas des investissements pour les banques. Mais les gens vous expliquent, même dans les débats politiques, comment on a mis 200 milliards dans les banques et on n'est pas capable d'augmenter les salaires. Mais on n'a pas mis 200 milliards dans les banques. On n'a rien mis dans les banques, sauf 10 milliards et demi récemment.
Ouais, exact.
Mais ce mélange de déclarations un peu irresponsables, il faut le dire, et de chiffres complètement aberrants, rend les gens littéralement perturbés, quoi. Ils ne savent même plus à quel sein se vouer. Alors du coup, ils rentrent chez eux, comme je vous le disais tout à l'heure, et ils disent, si c'est comme ça, on va se laisser mourir, on va même plus se soigner.
Mon Dieu, ça va bien.
Ils font la grève.
C'est parfait, c'est ce que je vais faire pendant presque un mois là de congé. Me laisser mourir.
Attendez. Comment on va faire pour faire nos émissions alors?
Ah, je suis sûr que vous allez être capable de vous retrouver quelqu'un qui fera le travail aussi bien.
Il n'y a que vous savez bien.
Ah ben d'accord. Si vous me dites de je ne partirai pas. Merci monsieur Reichmann.
Merci à vous. Donc nous nous revoyons d'ici un mois si j'ai bien compris.
Exactement. Ben voilà, il faut quand même que moi, celui qui est le plus riche ici, puisse se permettre un mois.
Je vous souhaite d'abord, ainsi qu'à tous nos auditeurs et à tous nos amis du Canada, un très joyeux Noël. Une excellente année, malgré le fait qu'elle ne se présente pas sous les meilleurs auspices, mais enfin, avec un peu de chance, elle sera meilleure qu'on ne le craint.
C'est juste.
Et puis, j'espère que Rockick aura aussi une très belle année 2009. Voilà.
On l'espère et on va travailler pour que le seul soit, M. Reichmann.
Absolument.
Pour nous deux, on se reparle le 20 janvier, le 30 janvier exactement, un vendredi, le 30 de janvier.
Alors, c'est entendu.
D'excellentes fêtes. Les auditeurs vous disent la même chose. Bonne journée, Monsieur Reichmann.
À bientôt.
C'est ce qu'on vous dit. Au revoir. Alors, Claude Reichmann, tout le monde, c'est ça. Réagissez 2 minutes après, là. Bravo.